Bonjour à tous. Quelle est la date d'aujourd'hui? C'est le 14, hein? 14 février? Il y a quelque chose de particulier le 14 février? Oh! Bah alors, les amoureux, manifestez-vous. Faites quelque chose, là, dites quelque chose. La fête de l'amour, hein? On a bien besoin, hein. Alors c'est l'occasion pour les amoureux de se faire des surprises, non? Quand on aime bien faire des surprises. On va justement parler de surprises. Vous aimez les surprises? Les bonnes, j'entends. Les bonnes. Les mauvaises, elles viennent toutes seules, les mauvaises. C'est pas la peine d'aller les chercher. Mais les bonnes, vous êtes preneur? Ouais, il y en a un qui est preneur. Donc on va parler surprise aujourd'hui. Et j'ai choisi pour titre « Surpris par Dieu ». Ça rappelle le titre d'un livre. Vous connaissez ce livre « Surpris par la joie » de Lewis, donc ça fait un petit clin d'œil à Lewis, ce titre « Surpris par Dieu ». Lewis raconte dans « Surpris par la joie », son expérience personnelle, comment il a rencontré Dieu. On va essayer de découvrir cela ensemble au travers d'un récit. Mais justement, la particularité aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas lire le texte, parce qu'il est probable qu'un certain nombre d'entre vous, vous ne connaissez pas cette histoire. D'accord? Ça ne va pas marcher pour tous, mais ça va marcher pour quelques-uns. Parce que ça va créer une surprise, justement. Voilà. Si vous aimez les surprises, je vais essayer de faire un effet de surprise. Je ne sais pas si ça va marcher, on verra. Mais pour cela, il ne faut pas connaître l'histoire. Si vous connaissez l'histoire, il n'y a plus de surprise. D'accord? Alors l'histoire, donc j'ai pas mis le texte, j'ai pas mis la référence biblique. L'histoire, elle est tirée de la vie de David. Alors dans la vie de David, qui nous est racontée avec beaucoup de détails, il se passe beaucoup de choses. Alors il y a des histoires qui sont très très connues. David et Goliath, vous inquiétez pas, c'est pas ça, hein. Parce que là c'était perdu d'avance, bien évidemment. Hein, Et puis, il n'y a plus d'effet de surprise sur l'histoire de David et Goliath. Vous savez comment ça se termine, d'accord? Même ceux qui n'ont pas lu la Bible, ils le savent. Alors, en plus, si vous avez lu la Bible et le texte de Samuel, dans 1 Samuel 17, vous connaissez bien cette histoire. Mais dans l'histoire de David, ou la vie de David, il y a des histoires qui sont beaucoup moins connues quand même que celles de David et de Goliath. Il y en a notamment une qui... C'est une belle histoire, c'est une très très belle histoire. Une histoire d'amour en fait, une histoire d'amitié. Ah, il y en a qui pensent, quand je dis David, amitié, ben non, ben c'est pas ça justement. Vous voyez, l'effet de surprise, hein, tombez dedans là. Effectivement, c'est une histoire d'amitié, mais c'est pas celle que Jésus, on va remettre les choses dans l'ordre, Qu'est-ce qui m'arrive là? Les neurones sont plus en place. Comment je vais faire maintenant? Après ce genre de dérapage. C'est une histoire... Alors, ce n'est pas l'histoire de David avec Jonathan, parce que ça a été une grande histoire d'amour, une histoire d'amitié très forte entre ces deux hommes. Une magnifique histoire. C'est une autre histoire d'amitié aussi, d'affection, d'amour... que David a connu et qui est riche, qui est belle, comme les histoires d'amour, vous savez, que ce soit dans un couple, bien sûr, entre un homme et une femme, que ce soit dans l'amitié, entre des personnes qui s'apprécient. C'est toujours quelque chose de beau en soi et c'est ce qu'on va découvrir, bien sûr, au travers de cette histoire. Et d'autant plus que dans l'histoire elle-même, il y a vraiment des surprises, en fait. Une histoire où il y a pas mal de surprises. Donc voilà, j'ai posé un peu le décor, mais vous savez rien. Je ne sais pas de quoi il va être question. Il y a quelqu'un qui a une idée, là? Allez. Il n'y a rien à gagner, mais au moins... Alors, je vais vous donner le plan. Ça va peut-être vous donner une idée. On va regarder une surprise pour le roi David. On va faire une surprise à David. D'accord? David, à son tour, va faire une surprise. Donc, c'est la surprise du roi. Hein, la surprise du chef. D'accord? La surprise du roi. Et puis, on terminera, parce qu'il faut toujours terminer comme ça, la surprise de notre roi. Nous aussi, on a une surprise, en fait. Donc, vous voyez, les questions de surprise ce matin. D'abord, David va recevoir une surprise de la part d'amis. On ne sait pas exactement quand situer cet épisode qui nous est raconté. Parce que dans un des récits, puisque vous avez Samuel, dans le livre de Samuel, les deux livres de Samuel, livre des chroniques, qui nous est raconté l'histoire de David dans ces deux livres. Cette histoire, elle n'est pas mise dans la chronologie de la vie de David. Elle nous est racontée au début, dans un livre, le livre des chroniques. Et puis, elle nous est racontée à la fin, dans le livre de Samuel. Donc, c'est assez difficile de situer, même si on peut avoir une petite idée du moment. Durant la vie de David, pendant lequel donc cette histoire s'est déroulée. C'était un moment où David venait juste de devenir le roi de tout Israël. Vous savez qu'il a été le roi de Juda uniquement pendant 7 ans, mais Juda c'était relativement facile, c'était sa tribu. Il venait de cette tribu de Juda, donc les habitants de Juda ont reconnu David comme le roi. David a régné au milieu d'eux pendant 7 ans. Et puis ensuite son royaume s'est étendu sur toutes les tribus d'Israël, sur les 12 tribus d'Israël. Et donc David est devenu le roi. Et c'est au début de ce règne de David, qui va durer une quarantaine d'années, qu'à ce moment-là, David va subir une contre-offensive assez rude de la part des Philistins. Les Philistins, qui étaient bien sûr les ennemis un peu naturels de David, on sait que Goliath était philistin, il a eu pas mal de guerres, de combats à mener contre les Philistins, et ces Philistins, voilà, ils ne voyaient pas d'un très bon œil, bien évidemment, que ce royaume se renforce un peu plus, et surtout avec un homme comme David, parce qu'ils connaissaient David, ils connaissaient bien sûr l'intelligence de David, l'autorité aussi qu'il avait reçue. Et donc, ils vont faire pression contre David à ce moment-là, contre Israël. Et ils vont aller dans ce qu'ils appelaient la vallée de Réphidim, et pas loin de Bethléem. Et c'est là qu'ils vont commencer à faire des ravages. C'était pendant la moisson. Ils vont s'attaquer aux moissons. Donc, s'attaquer aux moissons, c'était bien sûr affaiblir économiquement Israël. C'est mettre Israël dans une situation difficile. Et David, c'était pendant cette période-là, et à ce moment-là, David, qui était un tout jeune roi sur tout Israël, a été rejoint par certains de ses hommes parmi les plus fidèles, des vaillants héros. C'était des hommes qu'il avait rencontrés particulièrement pendant son exil dans les déserts, dans ce pays, désert de Juda, Engedi et d'autres. Et quand il était poursuivi par Saül, ça a duré plusieurs années. Et là, dans le désert, il va faire des rencontres avec des fugitifs, des hommes qui étaient des mauvais garçons et qui avaient dû fuir leur pays pour fuir la justice et la police. Et il se retrouvait là dans le désert. Et c'est parmi ces gens, David, on a accueilli quelques-uns qui sont devenus ses fidèles soldats, ces fidèles guerriers, et ils n'étaient pas forcément des Israélites, hein, c'était aussi de d'autres nations, et il y a eu un homme notamment qu'on connaît, c'est Uri, par exemple, Hétien, qui était hein, le mari de Bathsheba, et vous connaissez l'histoire de David avec Bathsheba. Donc Uri faisait partie de ces soldats. Et lorsque, dans cet épisode, David a été rejoint par trois d'entre eux. Et ils ont rejoint David. David était un peu en difficulté. Ils sont venus aux côtés de David. Ils étaient restés fidèles avec David pendant des années. Et un jour de grande chaleur, parce que c'était quand même les moissons, donc c'était là au début de l'été pratiquement, commençait à faire chaud certainement, et David exprime un souhait, un désir. Il a soif. Vous voyez, je pense qu'il y en a certains qui connaissent l'histoire, mais tout le monde ne connaît pas, donc dites rien à votre voisin, s'il ne connaît pas, ce n'est pas la peine. Attendez la surprise. Et David, à ce moment-là, exprime le désir et il dit « Ah, si seulement je pouvais boire de l'eau de Bethléem. » Il n'était pas loin de Bethléem, il n'était pas à Bethléem. Et à côté de Bethléem, ou devant Bethléem, il y avait un poste de Philistins. Les Philistins étaient là, dans la région. Et David exprime donc ce désir de boire de l'eau de Bethléem. Il exprime cela devant ces trois soldats qui sont venus le rencontrer. Et connaissait bien cette eau, bien évidemment. Il avait grandi à Bethléem, il avait bu de cette eau toute son enfance. Enfin voilà, il connaissait cette eau. Cette eau avait pour lui une histoire. Vous savez, quand quelque chose a une histoire, forcément, ça a une valeur particulière. Et c'était le cas pour David. Alors si David a dit cela, bon, il pouvait avoir soif, bien évidemment, mais c'est pas comme s'il avait rien à boire. Oui. Là où il était, il y avait de l'eau. Donc le problème n'était pas qu'il pouvait pas boire et qu'il mourait de soif. C'était plus le désir, le souhait d'un homme de retrouver quelque chose qu'il connaissait bien et qu'il ne pouvait pas, parce qu'il y avait des ennemis qui l'empêchaient de prendre et de boire de cette eau. Et c'est donc plus, on peut dire, un problème moral qu'un problème physique, même s'il pouvait avoir soif sur le moment, mais il pouvait satisfaire cette soif de bien d'autres manières, donc le problème n'était pas vraiment là. C'était plus moralement, parce que David, on peut penser qu'à ce moment-là, il venait de prendre toute la royauté sur tout Israël. C'était bien sûr une responsabilité très lourde qui lui était confiée, mais comme on le sait, c'était un homme de foi, un homme qui s'appuyait sur Dieu et qui comptait sur Dieu, un homme qui avait reçu des promesses de Dieu aussi, de royauté, et même que son trône serait éternel, enfin, des promesses magnifiques. Et avec tout cela, David se retrouvait dans une situation compliquée, critique, difficile, avec ces Philistins qui étaient là, qui menaçaient, qui attaquaient les moissons, qui détruisaient leurs biens. Enfin, c'était pour lui certainement un moment un peu de questionnement, de doute, se demandant ben, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Enfin, il m'avait promis un grand avenir, puis voilà comment ça se passe. C'est difficile, c'est compliqué. Je peux même pas aller boire de l'eau de mon village, de ma ville, de Bethléem. Ah, je suis même empêché de faire ça. Vous voyez, c'était insupportable pour lui. Il y avait la nostalgie, certainement, parce que cette eau, elle, pour lui, elle racontait une histoire, son histoire d'enfance. Et il n'avait même pas la liberté, la possibilité de boire de cette eau. Et donc, il exprime là cette aspiration, ce désir, ce souhait, sans rien demander, bien sûr. Il n'a rien demandé à personne. Il s'adressait, il a parlé ouvertement, à haute voix, certainement, pour que ses trois amis, ses trois soldats qui l'avaient rejoint entendent ce qu'il voudrait, et peut-être au-delà, bien sûr, ses doutes, un peu découragé par la situation, se demandant comment les choses allaient se faire, etc. Enfin, il n'avait pas le moral. Quand ces trois hommes entendent cela, ils se regardent, ils se disent, ouais, dis donc, le chef aujourd'hui, il n'a pas le moral. C'est pas la joie pour lui. Voilà, il se plaint, il voudrait boire de l'eau de Bethléem et puis il ne peut pas le faire, il est frustré, il se demande ce que Dieu fait dans tout cela, il est vraiment pas bien. Donc ils ont dû discuter, je pense, entre eux sur l'état moral, la situation de David en particulier, exprimé de cette manière-là, et peut-être même d'autres paroles, d'autres mots qu'on n'a pas dans le texte biblique, mais qui rendaient bien compte de David qui était un homme qui voilà, qui n'était pas bien à ce moment-là. Et donc ils se regardent et puis ils se disent, il y en a un qui dit, ben, et si on allait chercher l'eau? Vous Alors bon, aller chercher l'eau au puits, c'est pas compliqué, hein. Quand il n'y a pas une armée devant, ça va, hein. Il suffit d'aller la chercher, il faut faire peut-être des kilomètres, mais c'est pas difficile, mais sauf que là, pour aller prendre cette eau, chercher cette eau, il fallait affronter un ennemi. Et il y avait un poste de garde qui était là, juste à côté de Bethléem, avec les Philistins, et c'était au minimum une vingtaine de soldats qui étaient là, et peut-être beaucoup plus même. Donc pour aller chercher cette eau, il fallait mener la guerre, il fallait combattre. Donc c'était très risqué, et puis David ne leur avait donné aucun ordre, il n'avait pas dit, voilà, j'ai envie de boire de l'eau de Bethléem, vous savez, genre de caprice que certains peuvent faire, voilà, c'est pas facile, allez-y, je vous donne l'ordre, c'est moi le chef. Allez-y, peut-être vous allez mourir dans le processus, mais enfin, moi, c'est moi le chef. David n'a pas fait cela, monsieur, il n'a jamais fait ça. Il n'a même pas proposé de le faire, il aurait pu le faire sans donner un ordre, en disant, voilà, j'aimerais bien que vous y alliez, mais enfin, vous faites ce que vous voulez, les gars. Si vous avez envie d'y aller, allez-y. Si vous voulez me faire plaisir, voilà, je vous donne l'occasion de me faire plaisir, mais je ne vous en veux pas si vous ne le faites pas. Il n'a même pas fait cela, il a juste exprimé un souhait, un désir. Vous savez, ça nous arrive, nous aussi, hein. On a des souhaits, des désirs. On dit, ah là là, si je pouvais trouver cela ou revivre cela ou voir cette personne ou manger ce plat, ou, je sais pas quoi, je sais pas, l'omelette de la mère Poulard, vous connaissez? Vous la connaissez? Vous l'avez mangée, l'omelette de la mère Poulard? C'est au Mont-Saint-Michel, c'est une omelette extraordinaire. Je veux dire, quand vous avez goûté ça, vous en souvenez toute votre vie. Là. Vous êtes là, à la nostalgie. Oh là là, si je pouvais goûter à nouveau l'omelette de la mère Poulard. Je fais la pub pour son restaurant, là. Donc, ils y vont. Ils prennent leur épée, leurs armes. Ils prennent leur gourde, parce qu'ils avaient soif en cours de route, bien sûr. Il leur fallait de l'eau. Un peu de ravitaillement, certainement, et puis ils n'oublient pas de prendre une gourde vide. Là. Ou ils vont vider leur gourde pour mettre l'eau de Bethléem. Ils y vont. Et puis bien sûr, il faut mener le combat. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, le texte ne parle pas, mais peut-être qu'il y en a deux qui ont combattu pendant que un allait. Ils permettaient d'ouvrir la route pour aller jusqu'à la citerne et pour prendre l'eau à Bethléem. Enfin, ça n'a pas été simple, le texte ne donne pas le détail, mais. Voilà, c'était très risqué pour eux. Donc ils font cette marche, ils combattent l'ennemi comme il faut, ils prennent cette eau, ils reviennent. Ils reviennent vers David. Alors je ne sais pas combien de temps après, combien d'heures, combien de temps ça a duré, le texte ne le dit pas. Mais ils reviennent vers David, et puis David est là, et puis peut-être que David leur a dit, mais qu'est-ce que vous faisiez là? Je ne vous ai pas vu pendant... Hein, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé où? Et là, c'est vraiment le grand moment, ouais, c'est le grand moment. Quand vous êtes dans ce genre de situation-là, où vous vivez ça intensément, et je pense qu'eux, ils ont dû prendre leur temps, ils ont dit, écoute, Majesté, je ne sais pas comment ils l'appelaient, David, ils étaient proches de lui. David, tu sais, il n'y a pas longtemps, tu t'es plaint un peu de ta situation, tu n'étais pas bien, tout ça, et puis tu as dit, oh là, qu'est-ce que j'aimerais boire de l'eau de chez moi, là. Puis le grand moment, c'est de dire, tiens, là, voilà. Voilà, c'est tout. Ouais, vous imaginez la tête de David. Il n'avait pas demandé cela, il avait exprimé un souhait. Tout d'un coup, ces hommes, et puis il se rend compte tout ce que ça représente, bien sûr. C'était pas simplement d'avoir été chercher de l'eau. c'est d'avoir risqué leur vie pour prendre cette eau dans le seul but de lui faire plaisir, de lui faire cette surprise, de lui faire ce cadeau. Vous voyez, vous aimez faire les cadeaux, j'imagine. Mais ce qu'on aime faire quand on fait des cadeaux, c'est les surprises. C'est quand on sait que l'être aimé, ce qu'il aime en particulier, et qu'on, voilà, on ne dit rien, on cache tout cela. C'est l'anniversaire de la maman. Et puis on ne dit rien, et puis on organise une grande fête. Et puis quand Muguette arrive, elle est... Oh, c'est ça pour ses 60 ans, hein. C'est la grande surprise. C'était l'excitation, c'est l'excitation. C'était son anniversaire cette semaine, Muguette aussi. Et oui, très bien. T'as fait une surprise, hein. On aime faire des surprises pour les gens qu'on aime, c'est-à-dire leur apporter ou leur offrir, leur donner ce qu'ils désirent. Alors on repère ça dans une conversation, vous voyez. Et puis on se dit, tiens, le jour où ça va se présenter, je vais pouvoir le faire. Et puis quand vous arrivez, il y a le cadeau, mais il y a plus que ça. Il y a plus que le cadeau, il y a la surprise. Il y a cet acte qui a une grande importance. Et là, c'est ce qui s'est passé pour ces hommes de David, hein, ses proches, soldats. David s'était souvent battu avec eux. Il avait remporté pas mal de victoires avec eux. Enfin, ils avaient beaucoup partagé. C'était des guerriers ensemble. Et puis voilà que David avait simplement fait mention de son souhait de boire de l'eau de Bethléem. Et puis, quelques heures après, ils sont là, ils lui apportent cette eau. Ils disent, David, voilà. Quelle preuve d'amour, hein. Une preuve d'amour, une magnifique preuve d'affection. Une surprise en même temps. David, il est certainement touché, ému de ce qu'ils ont fait pour lui. Il savait qu'il l'aimait, mais à ce point-là, vous savez, au point de risquer sa vie simplement pour répondre à un désir, une aspiration. Ça, il était loin de le penser. Certainement que David est très ému. Ça, c'est la surprise pour le roi. C'est la surprise qui est faite au roi, en fait. Mais ce n'est pas la seule surprise dans le texte. Parce qu'après... C'est le roi qui va leur faire une surprise. Ouais, c'est pas mal. Et quand vous faites une surprise à quelqu'un que vous aimez, puis boum, il vous renvoie une surprise de l'autre côté. C'est ce que David va faire. Ils ont pu faire une belle surprise, montrer leur amour à David, et puis David va leur faire une surprise. Alors, il y en a qui connaissent l'histoire. Vous savez ce qui va se passer, certainement. David va prendre cette eau. Et l'eau, elle est précieuse. Imaginez la valeur qu'elle a. C'est le prix, c'est le sang de ces hommes, quand même. Et il prend cette eau, et alors que ces hommes s'attendent à ce qu'ils la boivent, qu'ils vivent un moment, qu'ils se délectent, c'est qu'une eau, mais quelle eau, en fait. C'est une eau exceptionnelle. C'est une eau qui a de la valeur, qui a une richesse formidable, qui a une histoire, bien évidemment. Donc, c'est une eau précieuse, donc c'est un moment délicieux. Eux, ils s'attendent, ils ont rêvé de ce moment-là, tout le temps qu'ils sont allés, tout le temps qu'ils sont revenus. Enfin, ils voulaient voir David boire cette eau et prendre un plaisir immense à boire cette eau qu'ils avaient été lui chercher au prix de sa vie, au prix de leur vie, pardon, parce qu'ils étaient trois. Et là, David prend cette eau, et puis il prend cette eau, et là, imaginons qu'elle était dans une gourde. Il prend cette eau, et puis, tiens, il y a de l'eau là. Il n'y a pas d'eau ici. Pour mon histoire, il n'y a pas d'eau. Il prend cette eau et il la verse par terre, sur le sol. Comme ça. Le sol a été mouillé, mais j'imagine pas longtemps. Hein. Il faisait chaud, de la terre. Au bout de quelques secondes, l'eau a disparu. Plus rien. Allez, gars! Tout ce que vous avez fait, regardez ce que j'en fais, moi. Il n'y a pas quoi être choqué, là. Vous imaginez, vous faites un formidable cadeau à la personne que vous aimez. Tout ce qu'elle fait, elle met par terre, puis elle écrase, et puis terminé. On dirait, oh, ça m'a coûté, hein. Il y a quoi vivre cela comme comme une insulte même. De dire, mais après tout ce que j'ai fait, voilà, tu pouvais au moins la boire cette eau. Et tu ne veux même pas la boire. Oui, c'est là. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, si vous ne l'avez jamais vue, vous dites, mais qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive à David ? Mais pourquoi il fait ça ? C'est monstrueux. Enfin, comment il traite ces hommes qui ont été au prix de leur vie pour lui trouver cette eau, pour répondre à son désir. Puis voilà tout ce qu'il fait. Oh, sympa les gars, allez hop, pssst, terminé. Voilà, on passe à autre chose ? Il y a quoi être choqué, hein ? Scandalisé, dire mais qu'est-ce que c'est ? David, il est monstrueux. Mais David va donner une explication. Et là, on peut lire le texte. Et on va lire le texte. C'est dans 2 Samuel 23, 13. Trois des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulan. Vous connaissez bien cette caverne, il avait déjà été lorsqu'il était poursuivi par Saül. Et là, il y retournait, vous imaginez, il était roi, il retournait dans une caverne. Lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée de Réphaïm, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et la répandit devant l'Éternel en disant, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes de David, donc. Là, c'est une surprise. Et croyez-moi, c'est une grande surprise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient fait ça. C'est pas Saül qui aurait fait ça. Vous savez, à l'époque, quand on devenait le roi d'un peuple, on devenait très vite un tyran ou un dictateur, un mégalo. Et David, s'il avait été comme les autres, il aurait pu dire, oh là là, voilà ce qu'ils font pour moi. Vous voyez l'attachement qu'ils ont pour moi. Voilà, je suis de plus en plus grand, de plus en plus fort, de plus en plus beau. Et David aurait pu prendre, il aurait dû normalement, prendre cette eau et la boire pour lui-même, parce que c'était là pour lui, pour sa gloire. Mais là, il refuse. Il refuse. Il dit non, je ne peux pas boire cette eau. Elle a trop de valeur, cette eau. Je ne suis pas digne de cette eau. C'est le sang de ces hommes, de mes amis, à qui je n'avais rien demandé. Cette eau, ils sont allés la chercher, mais ils auraient pu mourir. Ils sont allés quand même. Et maintenant que j'ai cette eau entre mes mains, je ne peux pas boire cette eau, parce que je ne me considère pas comme digne de cette eau. Voyez. Beaucoup de rois auraient dit, moi je suis digne. Peut-être après, ils auraient dit, vous ne pouvez pas y retourner. Ça me fait plaisir, moi. On va voir combien de temps vous allez tenir. Non, David ne pouvait pas. Parce que ça correspondait au sang de ces hommes. Et pour David, le seul qui était vraiment digne de recevoir cette eau, c'était Dieu, en fait. Et David ne se prenait pas pour Dieu. Il ne jouait pas à Dieu. Il savait qu'il n'était qu'un homme. Il savait d'où il venait. C'est ce que Dieu lui avait rappelé, vous savez, dans l'alliance qu'il fera avec lui, en parlant de sa maison, qui sera une maison éternelle, le trône de David éternel. Et Dieu dira, David, tu te souviens d'où tu viens, hein? Tu n'étais pas le plus grand, tu n'étais pas le meilleur, tu n'étais pas le plus fort. Tu étais le contraire, tu étais le plus petit. C'est même celui que ton père a oublié, hein, quand Samuel le prophète a demandé au père de David de présenter ses fils, parce que parmi eux, il y en avait un qui était appelé à devenir le roi d'Israël, le prochain roi d'Israël. Et il a présenté tous ses fils, sauf David. David était dans les montagnes de Juda en train de garder les moutons de son père, et son père l'avait pratiquement oublié. Et David n'a jamais oublié cela, lui. Il se rappelait d'où il venait. Et à ce moment-là, il s'en est rappelé, vous savez. Il n'a pas pris la grosse tête, disant, voilà, moi je suis digne de ça. Non. David ne se sentait pas digne d'un tel honneur. Donc il n'a pas pu prendre cette eau pour lui-même. Alors quand il l'a mise par terre, ce n'était pas simplement de la jeter à terre, c'était un autre acte. C'était la présenter à Dieu, c'était d'en faire une offrande. Et ça a dû être une grande surprise pour ces hommes. Ils ont dû comprendre que oui, effectivement, David considérait que leur eau était tellement chère, avait tellement de valeur, que lui était tellement indigne par rapport à cela, qu'il n'y a que Dieu qui pouvait la recevoir. Ce geste-là montre à quel point on voit pourquoi David était tellement différent des autres. Puisqu'il y avait cette humilité au fond de son cœur. Et là, il va l'exprimer, il le fera de bien d'autres manières, bien évidemment, durant son règne. Mais là, il manifeste cette humilité de manière exceptionnelle. Ces hommes avaient fait un acte de bravoure, de dévouement, de consécration totale pour leur roi, puisqu'ils étaient prêts à mourir pour lui, simplement pour satisfaire un désir. Quand on lit cette histoire, bien sûr, cet acte-là, il nous rappelle une autre histoire. Il ne faut jamais oublier, parce que c'est là présent partout, en fait. Et c'est ce qui nous amène au troisième point, la surprise de notre roi. Lorsque ces trois hommes de David ont entendu à la fois le désir de David et en même temps certainement les plaintes, le découragement de David quand il s'est exprimé ainsi, ils ont été prêts à prendre tous les risques pour satisfaire le cœur de celui qu'ils aimaient énormément, c'est-à-dire David. Ils le respectaient, ils l'honoraient. Et vous savez, quand vous aimez quelqu'un énormément, vous considérez que ses désirs sont des ordres. C'est pas ça? Que ses désirs deviennent des ordres. Dieu n'avait rien commandé, je l'ai précisé tout à l'heure. Il n'avait rien exigé. Ce n'était pas un ordre qu'il avait donné à ses hommes en disant « Allez, cherchez de l'eau, prouvez que vous êtes vraiment à la hauteur, etc. » Non, il n'a jamais fait ça. Il a simplement exprimé un désir, mais pour ces hommes, ces valeureux, ces vaillants soldats qui aimaient tellement David, c'était comme un ordre. Vous savez, l'Évangile nous raconte l'histoire d'un autre David, beaucoup plus grand que le premier, même s'il est le fils de David, ainsi appelé dans les Évangiles, qui lui aussi a entendu les aspirations et les soupirs et les désirs, on peut dire, de l'humanité tout entière, en fait. C'est quelque chose qui est très présent dans cette rencontre que Jésus a fait avec la Samaritaine. Et vous voyez pourquoi je parle de la Samaritaine dans ce contexte. Parce que là aussi, il est question d'eau, il est question de soif, de désir aussi. Lorsque Jésus va rencontrer cette femme, vous connaissez les circonstances, du coup là c'est un des récits les plus connus de la Bible, des évangiles en tout cas. Jésus va se trouver près du puits de Jacob, fatigué après une longue marche. Les disciples ont été envoyés à la ville pour faire quelques courses, pour qu'ils puisse manger ensemble. Et donc Jésus est là tout seul lorsque cette femme arrive, cette Samaritaine arrive pour puiser de l'eau, elle est toute seule, et on sait pourquoi elle est seule bien sûr. Et là, Jésus va d'abord demander de l'eau à cette femme. Cette femme, elle est surprise parce que Jésus est un juif et les juifs voilà, n'ont pas de relation avec les samaritains en particulier. Et plus c'est un homme et une femme. Enfin voilà, dans ce genre de culture, ça ne se fait pas en fait. Donc elle exprime son étonnement devant la demande de Jésus. Et puis, à un moment donné, Jésus va dire à cette femme, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Et là, bien sûr, comme dans l'histoire de David, c'est pas qu'une question de soif physique. C'est beaucoup plus que cela. Et David exprimait une sorte de découragement et de plainte au travers de ce souhait quand il disait qu'il voulait boire de l'eau de Bethléem. Et là, c'est la même chose. Lorsque Jésus s'adresse à cette femme, bien sûr, il n'est pas là sur le plan physique. Il va les choses, il met les choses beaucoup plus haut et beaucoup plus loin parce que c'est le fond du problème pour cette femme. Donc cette femme, quand elle entend ça, elle dit « Oh là, est-ce que tu ne peux pas me donner de cette eau ?» Formidable, si on pouvait trouver cette eau magique. Elle prend les choses sur le plan naturel, sur le plan physique. Et là, Jésus va lui dire « Bien, avant, d'accord, ok. » Je vais faire ça, mais avant, tu vas chercher ton mari. Alors là, ça met un froid. Et tout ce qu'elle peut répondre, elle ne veut pas en dire plus. Et on comprend. Elle dit, mais je n'ai pas de mari. Donc on sent que là, il y a un problème. C'est pas comment ça va se passer. Les choses vont se passer maintenant. On dit peut-être Jésus a fait une bourde. Ça a un peu avancé, vous voyez. Des fois, quand on parle à quelqu'un, vous voyez, on dit « Alors, comment va ton mari ?»« Ben, mon mari, il est mort. » Ah, vous savez plus, là. Vous savez plus quoi dire. Vous voyez, ce genre de situation. Vous ne saviez pas, donc. Et là, c'est pareil. Quand Jésus dit « Va chercher ton mari », il dit « Moi, j'en ai pas. De quoi tu parles ? Je ne suis pas marié. » Et là, ça va être la surprise pour cette femme, bien sûr. Que Jésus va dire « Oui, je sais, je connais toute ta situation. Je sais que tu n'es pas marié en ce moment, mais et pour être marié, tu as déjà été marié. Hein. Et puis pas qu'une fois, en plus. 5 fois. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des stars de Hollywood qui se marient 5 fois. Elle, c'était la Samaritaine. 5 fois. Et puis, ben oui, 5 échecs. Mais t'es pas toute seule, tu vis avec quelqu'un, mais c'est même pas ton mari. C'est pour ça qu'elle pouvait dire « j'ai pas de mari ». Donc Jésus la mettait face à quelque chose de douloureux pour elle. C'est probablement ce qu'il y avait de plus douloureux dans sa vie, à cette femme. C'était ses échecs conjugaux. À la suite des uns des autres, c'est parce qu'elle avait... Elle avait essayé, elle avait espéré, bien sûr, à chaque rencontre. Elle pensait que ça y est, c'était le bon, c'était le meilleur. Elle allait enfin être heureuse. Il y a eu un temps, peut-être, de bonheur, un temps de joie. Et puis, bam, les choses se sont détruites et ça s'est mal terminé. Et elle recommençait. Quand Jésus fait cela, c'est qu'il voulait lui montrer une chose. C'est la vraie nature de sa soif. Elle avait cru trouver la satisfaction, être désaltérée à chaque fois, au travers de la vie d'un couple. Pour elle, c'était ouais, se marier, c'était pff, ça y est, ça serait le bonheur total. Et elle l'a fait, elle s'est mariée même plusieurs fois. Et malgré, le pire, c'est que malgré les échecs à répétition, elle continuait encore dans cette pensée. Elle pensait encore, elle essayait encore à nouveau avec quelqu'un d'autre. Et là, Jésus lui dit, tu vois ce que tu cherches. Ce que tu cherches au travers de ces rencontres, au travers une rencontre conjugale, de construire une famille, etc. Moi, c'est ce que je te propose. Ce que tu cherches, je peux te le donner. Alors, non pas en devenant son mari, ce n'était pas ça le projet, bien évidemment. Mais en répondant à la soif qu'il y avait derrière tout cela, derrière cette recherche, il y avait une véritable soif. Et Jésus lui parle à ce moment-là et lui dit, si tu continues dans cette voie-là, tu seras toujours insatisfaite. Maintenant, si tu viens et tu reçois de l'eau que moi, je peux te donner, la grâce, la vie que je peux te donner, alors à ce moment-là, tu seras satisfaite. Et tu ne vas pas chercher ce bonheur total au travers d'une rencontre, comme c'est encore le cas pour beaucoup de gens, bien évidemment. Alors bien sûr, quand ça s'écroule, ben, tout s'écroule. Mais ce n'est pas seulement avec cela, on peut le faire avec d'autres choses, avec un métier et dans d'autres activités. C'est cette plainte-là. Vous voyez, ce que ces trois hommes ont entendu de la bouche de David, en fait, c'est ce que Dieu a entendu dans notre bouche, dans la bouche de cette Samaritaine, qui voulait, qui cherchait cette satisfaction. Il dit, ah, si seulement je pouvais trouver cette satisfaction, si seulement je pouvais trouver cette eau de Bethléem, en fait. Alors, vous voyez ce que Jésus a fait? Il a fait la même chose que ces trois hommes. Il est allé. Il est allé chercher cette eau. Ces trois hommes, ils l'ont fait au risque de leur vie, bien sûr. Ils auraient pu mourir, ils ne sont pas morts. Mais pour Jésus, ce n'était pas au risque de sa vie, c'était au prix de sa vie. Lui, il savait qu'il allait payer de sa vie, bien sûr. Eux, ils auraient pu donner leur sang, ils étaient prêts à le faire. Mais ils ne l'ont pas fait, alors que pour Jésus, lui, il a donné son sang. Et c'est là qu'on voit cette surprise, en fait. Vous voyez, l'amour que ces trois hommes ont manifesté à l'égard de David au travers de ce geste, c'est ce qu'on retrouve, bien évidemment, lorsqu'on lit l'Évangile et la surprise que Dieu nous fait en disant « Tu cherches à être satisfait ?» Cette femme, elle cherchait cette satisfaction. Et qu'est-ce qui va être son bonheur, là, au cours de cette rencontre? C'est qu'elle va réaliser que Jésus est le Messie, que Jésus peut seul vraiment la satisfaire. Et elle va retourner chez elle, elle sera une femme transformée. Elle va annoncer à tout le monde la rencontre qu'elle a faite. Et comment elle est différente maintenant, sa vie conjugale est toujours un peu bancale, bien sûr. Mais c'est plus là qu'elle va chercher l'essentiel. Ça, c'est la surprise. C'est là qu'il y a cette preuve d'amour, ce geste d'affection. Bethléem, pour Jésus, c'était l'eau de Bethléem, c'était bien sûr la croix, son sang qui a versé, de sorte qu'il puisse revenir vers nous en nous disant... Et l'Évangile, c'est ça, vous savez. L'Évangile, c'est le moment où ces hommes vont dire à David, « Ah, t'avais envie de cette eau, ben la voilà, cette eau, elle est là. » Et l'Évangile, c'est ça. C'est ce que Jésus a fait avec la Samaritaine. « Ah, tu es là, insatisfaite, tu es malheureuse, tu vas d'échec en échec. » Et Jésus vient vers elle en disant, « Ben voilà, l'eau est là, la grâce est là. » Et c'est ce que nous avons découvert au travers de l'Évangile. C'est pour ça qu'on est là, bien sûr. Pour avoir cette eau, et on a eu cette eau en abondance. Le pardon, la grâce, la présence de Dieu. Bien sûr, comme je disais, la différence avec ces trois soldats de David qui ont fait ce geste extraordinaire, c'est qu'eux, ils ne sont pas morts dans le processus, alors que Jésus, lui, a donné sa vie. Et c'est justement là que ça devient intéressant, c'est que vous savez, quand Jésus va être crucifié sur cette croix, il va prononcer sept paroles. On va les revoir, ces sept paroles. Et parmi ces sept paroles, il y a cette parole. J'ai soif. J'ai soif. On va regarder ces sept paroles Vous connaissez la suite, j'ai pas tout mis, mais vous connaissez. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'était dans sa relation avec ses ennemis, avec ceux qui le crucifiaient, qui le rejetaient. Voilà comment Jésus réagit. Comment il répond? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'autre, la deuxième, dans l'ordre, hein. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, et là, vous savez, vous connaissez la suite, et vous savez à qui il s'adresse. C'est un qui était comme lui, crucifié, et qui a demandé à être avec Jésus, dans la présence de Jésus. L'autre disait à Jésus, allez, descends-moi de la croix et je croirai en toi. Et ce meurtrier, ce condamné à mort, crucifié avec Jésus, lui, a vu autre chose. Il a vu que Jésus était vraiment le roi, le chef. Il lui dit, moi, tout ce qui compte, c'est de rester avec toi. Que ce soit ici-bas ou là-haut, je reste avec toi. Et Jésus lui dira ces paroles extraordinaires. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Donc ça, c'est dans sa relation avec les pécheurs qui se repentent. Il y avait la relation avec ses ennemis, Père, pardonne-leur. Et puis la troisième, ça, c'est dans sa relation avec Marie, avec Jean, avec ses proches, ses disciples. Donc avec Marie, avec sa mère, donc il appelle femme, mais dans la culture de l'époque, c'était pas du tout désobligeant. Et il dit à Marie, donc était là, il indique... Je ne pouvais pas montrer avec la main, bien évidemment, mais il indique que c'est Jean qui devient son fils. Et il dit à Jean, bien sûr, voici ta mère aussi. Hein, ça sera la suite de cette troisième parole. Là, c'est dans sa relation avec les autres. Donc les trois premières paroles sont dans concernent sa relation avec les autres. Et puis, mon Dieu... Pourquoi m'as-tu abandonné? On l'a même en araméen. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est la parole que Jésus a prononcée, avec certainement un autre accent que le mien. Mais ce sont les mots qu'il a prononcés à ce moment-là. Et mon Dieu, et là on est dans la souffrance la plus terrible que Jésus a connue, bien sûr. Ce qu'il redoutait le plus, c'est cette séparation avec son Père. Il est là, dans le cœur même de cette douleur, de cette souffrance qu'il redoutait le plus, souffrance d'ordre moral, spirituel, bien sûr. Il y avait les souffrances physiques, mais les premières, les plus graves, les plus difficiles, c'était les souffrances d'ordre spirituel, moral, lorsqu'il était séparé avec son Père. Et puis, la cinquième, c'est bien sûr ces mots, j'ai soif. Là, la souffrance physique, bien sûr. La sixième, tout est accompli. Le fameux tout est accompli. Ça paraît bizarre quand même d'entendre ces mots à ce moment-là. Parce que vous savez ce que ça voulait dire quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire j'ai bien réussi ma mission. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. On dit ah bon ? De l'extérieur, c'est pas un grand succès. Hein ? Ça se termine mal. Vous savez, les disciples à ce moment-là, ils pensaient pas que tout était réussi. Hein ? Loin de là. Il a fallu attendre trois jours plus tard la résurrection pour qu'il voit les choses autrement. Mais à ce moment-là, tout est accompli. Ouais. On n'a pas fait la moitié du boulot, là. Mais pour Jésus, tout était accompli. Puis la dernière, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Arrêtons-nous sous la soif. Il y avait beaucoup de souffrance, de douleur pour un supplicié sur une croix. Les spécialistes nous décrivent ça et c'est insupportable, bien sûr. Simplement de lire un peu les descriptions de la douleur que le crucifié pouvait endurer. Et Jésus, ça a été relativement court, mais ça pouvait durer des fois plusieurs jours. Mais parmi ces douleurs, certainement l'une des plus terribles, c'était la soif. C'est la soif. Cette soif de l'agonisant, du mourant, et peut-être que vous avez été au chevet d'un proche à la fin de sa vie, et c'est souvent cela qu'il ressent. Il faut qu'on lui mette quelques gouttes sur les lèvres, vous voyez, parce que Il allait être desséché, il n'y a plus de salive. Et pour le soulager un petit peu, il est là avec cette soif. C'est ce que Jésus a connu à ce moment-là. Et quand il a prononcé ces mots, vous savez, en 6 heures, vous n'avez que ces 7 paroles. Vous ne pouvez pas beaucoup parler sur la croix, oui. Vous ne faites pas un discours. Chaque mot, c'était une souffrance supplémentaire. Et quand il a exprimé ces mots, ce n'était pas seulement pour exprimer une douleur, bien sûr. C'était ce que son corps demandait le plus, c'était un peu à boire, bien sûr. On lui avait proposé au départ, parce que pour le crucifier, on lui proposait au départ, on lui proposait un breuvage qui avait été préparé par la famille, mais dans laquelle il y avait de l'absinthe, de la myrrhe, enfin voilà, c'est des produits un peu anesthésiants, vous voyez. Et Jésus avait refusé cela, parce qu'il voulait être lucide jusqu'au bout. Et sa lucidité était telle qu'à ce moment-là, il savait que quand il disait ces mots, « j'ai soif », c'était aussi une parole des Écritures, c'est ce que Jean nous dit. C'est une parole des Écritures qui était en train de s'accomplir. La conscience de Jésus était telle qu'il savait à ce moment-là qu'en disant ces mots, il y avait une parole prophétique de David, hein, dans le psaume 69, verset 22, qui dit « pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre ». Et c'est ce qui va se passer là. Un soldat qui était là, certainement un peu ému, il a assisté à toute cette scène et il prend une branche d'hysope et met ça avec une éponge, un peu de vinaigre et puis il le met sur les lèvres de Jésus. Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Ça, c'est la dernière parole prophétique concernant la vie et le ministère de Jésus qui se réalise. La dernière. Il y en a eu bien d'autres avant, bien sûr. À commencer par la naissance de Jésus, à Bethléem notamment. Il y en a eu bien d'autres pendant le ministère de Jésus. Il y en a bien d'autres, même au moment où il est mort. De son arrestation et tout cela, c'est ce qu'on on découvre en lisant le psaume 22, par exemple. Des paroles prophétiques concernant l'œuvre du Messie. Mais celle-ci, j'ai soif, c'est la dernière, en fait. Je me demande si à ce moment-là, le texte ne dit pas, mais je me demande si à ce moment-là, Jésus n'a pas repensé à la Samaritaine. Je ne serais pas surpris. Si à ce moment-là, il a pensé à cette scène qu'il avait vécue, qui avait été très forte, qui avait marqué un des grands moments de sa vie, de son ministère, à tel point que cette rencontre, elle nous est laissée dans les évangiles avec beaucoup de détails, hein, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Quand il était arrivé fatigué à ce moment-là au puits de Jacob, il avait soif. Il avait soif. Et quand il a demandé à cette Samaritaine, est-ce que tu peux me donner à boire? C'est parce qu'il avait vraiment soif. Et dès qu'il a commencé à parler à cette femme, il a oublié sa soif. Et puis il a pensé à la soif de cette femme, à l'insatisfaction de cette femme. Il a répondu à cela. Cette femme, avec sa soif, lui avait fait oublier la sienne. Mais là, ce jour-là, quand il était sur cette croix, il était dans cette douleur et dans cette souffrance. S'il avait pu satisfaire cette femme et lui donner ce qu'elle avait toujours essayé de trouver avec ses rencontres conjugales, c'est parce qu'il savait qu'un jour, lui, il connaîtrait cette soif. Christ, qui vient vers nous, il vient un peu comme ces 3 hommes, vous voyez, sont venus vers David pour lui dire, tiens, t'avais envie de cette eau, elle est là, cette eau, on est allé la chercher pour toi. Quelle surprise! Comment est-ce qu'on peut répondre, nous, à cela? Devant un tel acte, une telle surprise? Comme David l'a fait, en fait. C'est-à-dire, écoute, Seigneur, je te redonne tout cela, en fait. J'en fais une offrande pour toi. Ma vie sera un sacrifice pour toi, ma vie sera une offrande pour toi. C'est la seule réponse qu'on puisse faire. Vous savez, c'est celle que Paul fera au sujet de la générosité, de l'acte d'affection de la part de ses Philippiens. Quand il termine cette lettre aux Philippiens, il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, je suis comblé ». Il était en prison à ce moment-là, il manquait de beaucoup de choses et les Philippiens avaient répondu à ses besoins au travers d'Épaphrodite qui avait apporté ce dont il avait besoin pour vivre un peu plus confortablement dans cette prison, peut-être des vêtements, de la nourriture, etc. Et il dit « Ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Vous voyez ce qu'il dit au sujet de ces dons qui avaient été faits par ces Philippiens. Il avait fait bien évidemment pour Paul, mais Paul savait qu'il avait fait comme un acte d'amour pour Dieu, en fait. C'était une offrande. Donc ce qu'il faisait pour Paul, pour soulager Paul, c'était aussi, et d'abord pour Dieu qu'il faisait. Paul était leur frère. Et Paul, aussi de son côté, recevait ces dons comme une offrande qui avait été faite à Dieu. C'est la seule manière dont on peut répondre, je crois, à cette surprise que Dieu nous a faite au travers de l'Évangile. Ça, c'est une autre surprise pour Dieu. Le fait d'être là ce matin. C'est comme ça que Dieu le vit. C'est notre surprise. C'est notre offrande. C'est notre parfum, en fait. On est là, on dit, Seigneur, si je suis là, c'est parce que toi, tu es venu. Et tu m'as fait cette magnifique surprise. Tu as vu que j'avais cette soif et que j'essayais par tant de moyens d'être désaltéré et que je ne pouvais pas. Et donc tu es venu et tu m'as dit, tiens, voilà l'eau de Bethléem, celle que tu cherches depuis si longtemps. Quand on a commencé à boire de cette eau, bien sûr, on peut refaire que ce que David a fait à ce moment-là, c'est-à-dire dire, Seigneur, c'est pour toi. Maintenant, ma vie, c'est pour toi. Et on revient sur le thème de la sainteté qui met en avant cet aspect de la consécration, du dévouement total, comme ces hommes pour David à ce moment-là, ou comme David pour Dieu à ce moment-là, de ce dévouement total. Cette consécration sans borne, sans limite, en raison de ce qu'il a fait pour nous. Donc l'acte de David nous rappelle ce matin celui que son fils, dans les évangiles, a accompli pour nous, qui fait qu'on est ici aujourd'hui désaltéré, satisfait. Même si on peut avoir des problèmes, même si peut-être dans notre couple, dans notre famille, il y a bien des choses qui ne vont pas. On a cette eau vive, qui est source de notre joie et source de notre paix, de notre espérance, de notre assurance. Et c'est le plus grand bien qui existe. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant, sinon rendre tout cela à Dieu, au travers de notre vie, en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Demande-moi ce que tu veux maintenant. Je suis ton homme. Je suis pour toi. On va prier ensemble. Jésus. Seigneur. Seigneur, nous voulons rester sans cesse dans cet émerveillement de l'œuvre que tu as accomplie. Et au moment où nous allons à nouveau partager ce repas de Sainte-Cène, nous voulons nous replonger une fois de plus, Seigneur, dans l'œuvre que tu as faite pour chacun d'entre nous, afin de nous donner de cette eau de Bethléem, Seigneur, qui seule peut vraiment nous satisfaire. Seigneur, donne-nous de répondre comme David a répondu, Seigneur, en revenant vers toi, Seigneur, et en t'apportant ce que tu nous as donné, Seigneur. Si tu nous as donné la vie, Seigneur, eh bien nous te donnons notre vie, Seigneur. Nous te la donnons entièrement, Seigneur. Si tu nous as donné des talents, Seigneur, et des capacités, alors nous te les apportons aussi, Seigneur. Tout cela, c'est d'abord pour toi, Seigneur. Nous ne voulons pas que ça nous serve à nous, Seigneur, à nous élever et à dominer ou à écraser les autres, Seigneur. Nous voulons que ça te serve à toi d'abord, Seigneur. C'est pour toi et toi seul. Alors, Seigneur, reçois ce matin notre présence ici, simplement, et notre louange, notre adoration comme un parfum. Un véritable parfum, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous rappelles encore ce matin et ce que tu fais, Seigneur. Et tu vois ceux qui, peut-être, n'ont pas encore pleinement saisi le don que tu es venu leur faire et leur apporter. Qu'ils le vivent simplement, Seigneur, ce matin, en recevant cette eau vive, comme la Samaritaine l'a reçue, Seigneur. Nous souvenons, Seigneur, que tu as payé le prix fort, Seigneur, et que tu as crié « J'ai soif », pour que nous ne puissions ne plus jamais crier « J'ai soif ». Seigneur, merci pour cela. Merci pour cela. Du fond du cœur, merci. Nous sommes étonnés, nous sommes émerveillés, Seigneur. Tu nous surprends encore. Et nous aussi, nous voulons te surprendre par notre réaction, Seigneur, par notre amour, par notre dévouement, par notre consécration.